Amis potonautes, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro dont on refait le mastre, l'émission radio de Poteau Carré, première émission de la saison 2024-2025, saison très particulière de retour en L1. Une équipe au complète ce soir pour faire vivre ce On refait le mastre avec à la technique comme toujours Verivel. Salut Verivel.
Salut Osvaldo et salut à tout le monde.
Alors Verivel qui est chargé aussi de regarder un petit peu le chat YouTube, le chat, enfin les messages sur Twitter, le forum, donc n'hésitez pas à intervenir, il a l'œil. Le meilleur d'entre nous, le plus sérieux, le seul sur qui on peut compter, c'est Dissident qui est là ce soir également. Salut Dissident.
Salut Osvaldo, bonsoir à tous.
Et on a bien sûr également l'historique Par Hasard qui n'était pas en retard pour une fois. Salut Par Hasard.
Salut à toi Osvaldo, salut à tous et bonne rentrée à tous.
Et puis celui qui est devenu un autre pilier, on a de plus en plus de piliers dans l'émission, c'est bien agréable, c'est Pat. Salut Pat.
Salut Osvaldo, bonsoir à tous.
Alors, quel va être le point central de l'émission de ce soir? On va faire une petite revue d'effectifs, hein, c'est ce qui va nous prendre le plus de temps, je pense, et plus particulièrement essayer d'analyser, de comprendre et pourquoi pas de juger un petit peu la stratégie de recrutement alors de la nouvelle direction ou du triumvirat. Il y a deux triumvirats maintenant. Alors, avant, on avait deux présidents, maintenant, on a deux triumvirats qui se superposent. On va voir si on arrive à donner du sens à ça et puis si on est un petit peu optimiste. Alors, peut-être avant de commencer, parce qu'on va revenir aussi sur les trois premiers matchs, on ne va pas faire très très long hein, parce qu'on n'a pas non plus envie de se faire mal. On parlera un petit peu de Lille aussi, de la réception de Lille vendredi. On réfléchira peut-être aux différentes options à la disposition d'Olivier Dalloglio compte tenu des blessures récentes. Peut-être un petit mot pour commencer sur une triste nouvelle aujourd'hui, Didier Roustan qui est décédé aujourd'hui. C'est bien triste parce que c'était un ovni dans le PAF. Je pense que c'était quelqu'un d'assez unique et il va beaucoup nous manquer, sans compter qu'il avait une affection particulière pour les Verts et que pour les gens de ma génération, ça restera à jamais le co-animateur de Téléfoot avec Pierre Cangioni et avec ce générique fabuleux du Téléfoot de cette époque où on voyait la frappe de Dominique Battenet à Anfield. Et ensuite, sa réaction christique à Dominique Battenet, image mythique. Et on le doit ça à Didier Roustan, car c'est lui qui avait insisté pour que ce but apparaisse au générique de Téléfoot. Il me l'avait dit dans un échange qu'on avait eu il y a quelques années et qui était bien sympathique. Voilà, fin de cette parenthèse. On revient au vert et on va parler un petit peu, pas très très longtemps, je l'ai dit, mais quand même un petit peu, c'est nécessaire, faire un bilan des trois premières rencontres. Alors, sur le plan comptable, c'est vite vu. Dissident, si on veut aller au-delà du plan comptable, c'est-à-dire zéro point, hein, je le rappelle, s'il y en a qui sortent du coma. 0 points en 3 matchs, qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu tires comme enseignement de ces 3 premières rencontres?
Oui, bah écoute, au-delà du 0 point, je dirais qu'on n'est même pas au niveau en fait, de la Ligue 1. Et il faut rappeler quand même 0 but, 0 tir cadré à Brest. On n'est pas pour l'instant au niveau de cette division-là, c'est à peu près clair, c'est difficile de contester ça. Par contre, sur un plan un petit peu plus optimiste, même si c'est pas évident, dans ces moments-là, on voit que l'équipe n'est pas prête, mais l'équipe, en fait, on l'a pas encore vue jusqu'à présent, avec des recrutements très tardifs, avec des joueurs qui n'ont pas encore pris leur marque. Avec des joueurs qui sont blessés. Moi, je n'ai pas l'impression encore d'avoir vu vraiment l'équipe que veut nous proposer la direction. Donc, c'est là-dessus que je garde un petit espoir pour la suite. C'est de se dire que si aujourd'hui, on n'est pas au niveau, ça ne veut pas forcément dire que demain, on ne le sera pas. Et je rappellerai que lors de notre dernière remontée en Ligue 1, c'était en 2004, c'est un petit moment, On avait attendu la septième journée pour remporter notre première victoire. Et on avait terminé sixième. Voilà, c'est cette petite note d'espoir sur laquelle j'essaie de me raccrocher pour l'instant.
Elle fait du bien, cette petite note d'espoir. C'est vrai que ça fait du bien de se rafraîchir la mémoire par moment et de se souvenir que ce n'est pas la première fois qu'on souffre. Mais enfin bon, ça, plus ou moins, on le sait tous. Zéro point, zéro but, un naufrage à Brest et effectivement une équipe qui probablement ne correspond pas à l'équipe qui va s'installer, si tant est qu'il y a une équipe de titulaires qui s'installe. Au-delà de la qualité du jeu, on n'est pas au niveau, je suis d'accord avec Dissident. Pat, moi je voudrais t'interroger sur l'attitude des joueurs, sur leur implication, leur engagement. Est-ce que tu as vu des joueurs qui avaient une attitude cohérente avec notre situation, c'est-à-dire la situation de club qui monte, et donc il va falloir peut-être, il faut dans ces cas-là peut-être compenser un certain déficit d'expérience, de niveau peut-être aussi, par un engagement supplémentaire.
J'ai l'impression que tu lis dans mes pensées, Osvaldo. Clairement, pour moi, c'était vraiment le point qui m'a le plus choqué sur. Alors, je vais pas dire sur les trois premiers matchs, mais surtout sur les deux derniers. Puisqu'à Monaco, au contraire, j'avais trouvé que l'équipe, au-delà de ses carences d'organisation et de niveau par rapport à l'adversaire, avait pu compenser par une certaine dire, hausse de niveau entre guillemets dans l'application qui faisait qu'on a presque eu l'illusion qu'elle pouvait ramener un point de là-bas. Sur les deux matchs suivants, Le Havre et surtout à Brest, moi j'ai surtout l'impression de voir une équipe qui non seulement est perdue en termes d'organisation, comme l'a très bien dit Dissident, mais aussi surtout dans l'implication et la volonté de s'en sortir. Alors est-ce qu'elle est complètement, on va dire, perdu sur le terrain parce que les joueurs ne se connaissent pas. Il y a pas mal de nouveaux joueurs qui sont pas au niveau encore. Et on est aussi dans un contexte autrement plus difficile que celui de la Ligue 2 la saison dernière. Néanmoins, moi, j'attendais justement de ces joueurs de pouvoir nous montrer qu'ils avaient quand même envie de croquer dans cette Ligue 1 et d'y aller vraiment franco. Et en fait, on se rend compte que, eh ben, ils restent un peu dans leur pantoufle. Ils sont très timorés. Ils font énormément d'erreurs. Et surtout, moi, ce qui m'a vraiment le plus marqué, et ça, c'était notamment le cas à Brest, c'est qu'on n'a pas l'impression de voir une équipe, de voir un bloc. L'équipe n'attaque pas ensemble, elle ne défend pas ensemble. Je me souviens de la première mi-temps à Brest, on avait l'impression que l'équipe était coupée en deux, voire même en trois. Et pour moi, ça, c'est vraiment très inquiétant, puisque, à défaut d'avoir tous les joueurs présents à l'effectif, et on en parlera plus tard, le rôle du staff depuis la reprise en juillet, c'était quand même au moins de préparer cette équipe à affronter la Ligue 1 dans des conditions qui allaient forcément être compliquées. Et force est de constater que pour l'instant, bah, ça ne se voit pas du tout sur le terrain et dans les attitudes des joueurs.
Oui, je te rejoins aussi, hein. C'est vrai que je t'ai tendu la perche. J'ai été très à la fois surpris, déçu et même désabusé par ce que j'ai considéré être un manque d'engagement, en particulier à Brest, avec des joueurs qui déroulaient un football parce que c'est leur métier, mais il n'y avait pas de supplément d'âme du tout. Alors, il va falloir que ça change, sinon ça veut dire qu'ils se sont trompés de club. Par hasard, première question, est-ce que tu notes une différence importante entre Monaco et puis les deux matchs suivants, Le Havre et Brest? Et si c'est le cas, comment t'expliques ça? Parce que moi, j'ai vu un match plutôt encourageant à Monaco avec un nul qui n'aurait pas été volé. Hein, le but égalisateur de Sissoko, il a refusé pour un hors-jeu de 4 mm. Et ensuite, deux matchs très, très décevants, le dernier étant le pire. Donc, en fait, on va crescendo dans la médiocrité.
Ouais, je suis assez d'accord sur le crescendo, mais en revanche, je dirais plutôt que la grosse rupture, c'est entre les deux premiers matchs et le troisième, que entre le premier et les deux suivants. Parce que J'ai trouvé que contre Le Havre, on aurait pu tout aussi bien faire match nul que le perdre. Il se trouve qu'on le perd parce qu'on ne transforme pas nos premières occasions, avec notamment la frappe d'Amougou. On concède un corner idiot, un pénal un peu idiot, mais Le Havre n'était pas très très dangereux. Donc je nous ai trouvé globalement au niveau du Havre, ce qui n'est pas en soi une performance. On sent bien que cette équipe du Havre est vouée à jouer les 5 dernières places, mais je ne nous ai pas trouvé particulièrement en dessous. Et contrairement à vous, au-delà de cette différence que je fais plutôt entre le deuxième et le troisième match, où là pour le coup à Brest on a été d'une nullité rarement vue ces deux dernières saisons, contrairement à vous, au-delà de l'implication, moi je pense qu'il y a un problème un peu de qualité individuelle et de qualité de cohésion d'équipe, enfin d'automatisme entre les joueurs, lié au fait que on s'est retrouvé à titulariser Amougou, qui avait jamais joué jusqu'à présent, qui est pas mal mais qui a 18 ans. On s'est retrouvé à titulariser Aiki, qui a jamais rien montré et qui l'an dernier n'était quasiment jamais dans le groupe, a titularisé Fomba tout d'un coup au troisième match, alors que il a passé toute la deuxième partie de saison sur le banc. Enfin, donc on a une équipe qui s'est affaiblie assez objectivement sur le papier par rapport au mois d'avril et de mai. Et plus que l'état d'esprit, moi c'est ça qui m'a inquiété quand j'ai vu les compos. Je me suis dit on a recruté, contre le Havre, peut-être qu'on avait recruté que 7 ou 8 joueurs, il nous en manquait 2, mais on a beau avoir beaucoup recruté quantitativement, on ne voit pour l'instant pas les améliorations, d'une part parce qu'il y a la moitié des joueurs qui ne sont pas dispo, des recrues, et puis d'autre part parce que le peu de recrues qu'on a vu titulaires, donc en gros il y en a 3, c'est David Ajvili, Abdelhamid et un peu Benold, pour l'instant, on n'a pas vu la valeur ajoutée par rapport à Cardona, Chambaud et Nadé, quoi. Donc, et en plus de ça, on avait des blessés comme Mouefek, donc l'équipe, sans automatisme, objectivement, s'est plutôt affaiblie et était plutôt inférieure à celle qui a fini la saison dernière, quoi. Et c'est surtout ça, moi, que je constate, ce qui est à la fois une vraie circonstance atténuante et en même temps, ça reste quand même très inquiétant parce que ça veut dire qu'on a raté quelque chose dans notre préparation si on arrive fin août, début septembre, avec une équipe qui, objectivement, n'est pas du tout améliorée par rapport à l'an dernier, quoi. Ça, c'est ma grosse inquiétude. Et je rejoins Dissident sur le petit espoir de ne pas avoir vu en fait, la vraie équipe type qui est supposée se dégager un jour. Mais le premier échec, c'est que déjà, au bout de 3 journées, on n'a pas du tout idée de ce que ça pourrait être cette équipe type, quoi. On est en retard, on est vraiment en retard. En points et en...
Ouais, je suis d'accord avec toi.
Et en cohésion.
Oui, on est très en retard. Et puis tu as parlé, tu as donné quelques exemples de titularisation. C'est vrai qu'avoir toute une intersaison et se retrouver, commencer le championnat à Monaco, qui a fait deuxième l'année dernière, qui joue le titre cette année, avec Pedro Nzouzi sur les côtés, avec zéro latéral dans le groupe, c'est juste stupéfiant, quoi. On se demande comment c'est possible. Et donc, tu nous amènes à cette transition vers la deuxième partie, la plus importante de l'émission, sur faire une revue d'effectifs qui, en fait, va être l'occasion de donner son avis un petit peu sur les joueurs individuellement et puis après un avis global sur la qualité du groupe. Tu as commencé déjà à faire part de tes inquiétudes par hasard et on va essayer de préciser le propos. Alors, on ne va pas faire la totalité des joueurs, hein, on va prendre le titulaire ou supposé tel et son remplaçant et puis on va essayer de se faire une idée de la valeur aujourd'hui du groupe et puis de sa marge de progression aussi, parce que c'est très important ça. Par hasard, tu voulais ajouter quelque chose?
Ouais, je pique un peu le boulot de Verivel qui dort au fond de la classe, là, mais il y a Toulousain sur le forum qui a réagi et qui considère que effectivement le match contre le Havre, la différence avec celui de Brest, c'est que le match contre le Havre peut tourner positivement en notre faveur. Alors que celui de Brest, bah, on n'a pas vraiment eu de doute longtemps sur son issue. Voilà, donc il est plutôt dans cette.
Oui, c'est.
C'est peut-être pour ça que je le signale, mais il est plutôt dans la même mouvance que moi.
Non, mais c'est tout à fait juste, mais je voudrais ajouter une chose à laquelle j'ai pensé quand tu as fait cette remarque qui était juste déjà par hasard. C'est qu'il y avait aussi, le problème, à mon avis, c'est qu'il y avait aussi une grosse différence de niveau dans l'opposition. On va à Monaco et on reçoit le Havre. Alors le fait qu'on ne soit pas capable de faire mieux contre le Havre que ce qu'on a fait à Monaco, pour moi, c'est une baisse dans la performance. C'est dans ce sens-là que je disais qu'on allait crescendo dans la médiocrité. Pat, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, pour rebondir là-dessus. Alors, moi, je trouve qu'il y a quand même un vrai changement sur le match du Havre et surtout entre la première et la deuxième mi-temps. La première mi-temps du match contre le Havre, c'est plutôt équilibré. On sent quand même malgré tout que le Havre est quand même plus structuré, même à défaut de dominer. Mais c'était une équipe qui était beaucoup plus cohérente que nous. Mais bon, à la mi-temps. On aurait mené, ça n'aurait pas été illogique, ils avaient des occasions aussi, c'était plutôt équilibré. Là, par contre, en deuxième mi-temps, on a quand même nettement perdu pied par rapport à eux. Et au fur et à mesure du match, finalement, la défaite de l'équipe était totalement méritée, totalement logique, au vu de ce qu'on voyait, surtout sur cette deuxième mi-temps. Et malheureusement, pour moi, il y a quand même quelque chose qui s'est déclenché à ce moment-là et qui, pour l'instant, n'est toujours pas réglé, notamment quand on voit ce qui s'est passé à Brest, où ça a continué à s'enfoncer dans la médiocrité.
Oui, ok, merci Pat. Alors, par hasard, n'est pas du tout d'accord. Tu veux repréciser un truc par hasard ou on en reste là?
Juste, moi, j'étais au match contre le Havre, mais bon, je doute pas que tu l'aies vu aussi. La première mi-temps a été un peu soporifique de mon point de vue, et en deuxième mi-temps, pendant 20 minutes, on leur a quand même un petit peu mis le feu. C'est à ce moment qu'il y a la frappe de Tardieu dévissée, qu'il y a la frappe d'Amogou qui doit rentrer aussi. On a un ou deux centres qui passent devant la ligne, et puis on se prend à un moment donné un contre et c'est pénal. Mais moi, je trouve qu'on avait mis plus de vie et eu plus d'occases dans les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps que sur l'ensemble de la première. Hein. J'ai pas la même vision. Alors ensuite, on prend ce premier but. Et derrière, on s'en prend finalement un deuxième assez rapidement. Donc ça a un peu tué le suspense, le deuxième but. Mais moi, j'ai trouvé qu'on avait finalement perdu 2-0 une mi-temps, qu'on avait plutôt mieux joué sur cette mi-temps qu'on perd que sur la mi-temps à l'issue de laquelle on était à 0-0, quoi. Donc c'est pour ça que je dis, je suis pas d'accord avec ta vision de l'évolution du match contre le Havre.
Je veux bien t'accorder effectivement cette première partie de mi-temps, que effectivement on a plutôt bien dominé. Par contre, une fois dès que le premier but a été marqué, ça a été terminé. Et moi, clairement, moi, ce qui m'a vraiment choqué sur ça, surtout sur cette deuxième mi-temps, c'est qu'au final, tu avais une équipe, certes, qui n'était pas flamboyante, mais qui était cohérente, qui a fait en fait le match qu'il fallait pour gagner, même si elle n'a pas fait grand-chose, mais elle a fait ce qu'il fallait. Et nous, dès que derrière les éléments se sont et ont été contraires, avec d'abord ce penalty et ensuite le but sur corner, on n'a plus du tout vu notre équipe qui s'est totalement liquéfiée, qui a totalement disparu des radars. Et c'est en ce sens où pour moi il y a eu un vrai changement. Après, oui, effectivement, je t'accorde volontiers, oui, que sur la deuxième mi-temps, le début de la deuxième mi-temps, on aurait pu effectivement faire quelque chose.
Ok, bon, on va en rester là pour la première partie. On va passer à cette revue d'effectifs un petit peu. Verivel, on commence avec toi, avec le poste que tu affectionnes particulièrement, le poste de gardien. Donc, on va se contenter de la doublette, hein, la doublette Larssonneur-Maubleu. Comment tu juges la qualité de cette doublette au regard des exigences de la Ligue 1? Est-ce que tu penses qu'on est suffisamment armé?
Bah, moi, je pense que c'est pas là qu'on a spécialement le plus de problèmes hein, dans cette équipe, parce que je pense que Larssonneur, il a quand même prouvé l'année dernière qu'il avait un niveau qui, je pense, est compatible avec la Ligue 1. Il nous fallait trouver une autre doublure, hein, parce que par contre, on a vu que sur ses remplacements, Étienne Green s'était un peu cramé. Et donc, c'était difficile pour lui de rester dans cette position. Et dans ce sens, en fait, la direction a souhaité recruter. Ben, quelqu'un d'expérience, alors parce qu'on va en discuter tout à l'heure, mais je pense qu'on a recruté très jeune sur tous les autres postes. Et que, bon, à part Abdelhamid évidemment, mais sinon on a recruté très jeune. Et donc, pour encadrer, ils ont trouvé la solution Maubleu qui voilà, reste une doublure de gardien, donc qui n'est pas appelé à jouer non plus trop souvent. Mais pour moi, c'est dans ce sens-là, c'est dans le sens d'apporter de l'expérience et un petit peu de séniorité dans l'équipe qu'il a été recruté. Je pense que ce n'est pas forcément un mauvais choix, mais on verra en fait sur ses apparitions. Moi, ça fait longtemps que quand même, il a pas joué à ce niveau. Donc, à voir. Mais à mon avis, ce n'est pas là où on a le plus de soucis dans cet effectif de toute façon.
Oui, alors à mon avis, c'est une très bonne recrue, Brice Maubleu. Hein. Il fait l'unanimité vraiment de toutes les personnes qui ont travaillé avec lui, partenaires, entraîneurs, etc. Et puis, on l'a vu jouer à Grenoble hein, à plusieurs reprises. Et c'était vraiment un des tout meilleurs gardiens de Ligue 2. Donc, Grenoble a laissé partir pour service rendu, mais ils auraient préféré le conserver. Alors, bon, je suis d'accord avec toi, Verivel, et si quelqu'un n'est pas d'accord, bah, faudra le signaler, évidemment, mais je ne pense pas que ce soit dans ce domaine-là qu'on soit le plus en difficulté. Alors, si on prend l'équipe dans l'ordre sur le plan des latéraux côté droit, on se retrouve les deux principaux hein, avec Denis Sapia et Ivan Masson, et va commencer la litanie des blessés, puisque Ivan Masson est blessé au ménisque. On annonce une absence de 2 mois, donc on se doute bien que ça va plutôt faire 4 ou 5, comme d'habitude. Dissident Denis Sapia, Ivan Masson, 1, est-ce que tu penses que voilà, c'est correct pour la Ligue 1? Et 2, quand tu enlèves Ivan Masson de la liste, comment tu analyses la situation sur ce poste?
Ah, pour le coup, c'est deux joueurs qui ont l'expérience déjà de la Ligue 1. C'était des pour moi ça tenait la route sur le papier en fait. Les deux avec plutôt, je pense, Ivan Masson dans une position de titulaire et Denis Sapia qui aurait, à mon sens, fait un remplaçant tout à fait correct. Là, j'avoue qu'effectivement, avec l'annonce de la blessure de Masson. Se pose des questions sur ce poste-là, surtout que finalement derrière Denis Sapia, je vois pas un jeune qui pourrait assurer.
Moi, alors le jeune derrière, c'est Brian Nokoué hein, a priori. Hein. Mais bon. Côté droit. Autrement, il y a Pedro et Nzouzi dont on a parlé, mais le latéral droit de métier, c'est plutôt Brian Nokoué.
Ouais, dont j'ai pas de nouvelles. Moi, je sais même pas s'il est encore au club d'ailleurs.
Je l'ai pas vu non plus pendant la phase de préparation, donc j'ai la même interrogation que toi. C'est pour ça que je disais a priori.
Ouais, moi je pense qu'il était en fin de contrat et qu'il est parti, hein, Osvaldo. effectivement, en fait derrière il y aurait eu des solutions avec par exemple Darling Badi qu'on avait vu un petit peu l'année dernière. Mais qu'on a prêté,
ouais, je pense que c'est. Il a été prêté et en plus il est gaucher.
Ouais, effectivement. Il y avait. Alors moi, il y avait un joueur que j'aime beaucoup qui a été prêté aussi. C'était Beres Obuzu qui est défenseur central, mais qui, à mon avis, dans un rôle un peu comme Kurt Zuma quand il avait démarré comme ça sur le côté, aurait pu aider. Mais bon, il a été prêté à Quevilly et je pense que c'est plutôt bien pour lui. C'est assez logique. Moi j'ai pas une confiance infinie en Nzouzi qui pour moi sort un petit peu de nulle part. J'avais pas trop vu monter dans les équipes de jeunes, qui m'avait pas toujours rassuré, qui m'a pas rassuré à la fois sur les matchs de préparation et sur les quelques matchs qu'il a pu jouer en début de saison. Donc là, le poste de latéral droit, oui, clairement ça pose souci. Même si, encore une fois, Denis Sapia, pour moi, est un titulaire crédible, je le dis du bout des lèvres, pour la Ligue 1.
Si mes souvenirs sont bons, à Monaco, c'est Nzouzi qui a joué latéral droit, alors que je m'attendais à ce qu'il soit latéral gauche, et puis Pedro qui était latéral gauche. Bon. Ou l'inverse, bon, je ne sais plus bien. Ils n'ont pas été nuls, les jeunes, à Monaco, hein, mais tu peux, on ne peut pas partir sur une saison comme ça, quoi.
C'était au Wuzhou, à droite.
Ah oui, tu as raison. Pedro est rentré en cours de match. Ouais, Pedro est rentré en cours de match, tu as raison.
Mais ce qui est vrai, c'est qu'il a changé d'aile sur le deuxième match, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, c'est ça.
Tout à fait.
Moi, je me dis, il y a un problème. Pourquoi c'est Owuzu qui sort de l'aile droite, alors qu'on avait toujours ce problème et pourquoi il met Masson à gauche et au lieu de garder Owuzu à droite, il met Nzuzi à la place. C'est ça que je n'avais pas compris.
Ouais, moi, je me suis fait la même réflexion. Et j'ai toujours pas la réponse à ça. On en reparlera peut-être au moment où on parlera de Lamine Fomba, parce que il y a des choses au niveau d'Olivier Dalloglio que j'ai pas comprises. Verivel, tu voulais dire quelque chose?
Oui, je voulais juste rapporter qu'on s'inquiète aussi, hein, sur l'effectif, sur le chat et sur le forum, hein, sur le chat, notamment Franck, hein, qui nous dit qu'on a une équipe très faible, Denis qui nous dit que Appia et Masson, c'est affreux, mais heureusement qu'on a Cornu qui a l'air pas mal. Sur le forum, c'est pareil, c'est Soji là, qui nous dit qu'on a un immense problème aussi avec les coups de pied arrêtés, peut-être qu'on va en parler pendant l'émission. Et puis Toulousain qui nous rappelle le tournant du match contre le Havre, c'est bien le raté d'Amogou, même si c'est un jeune, on ne peut pas lui reprocher. Et aussi le coaching, hein, du coach du Havre, qui a fait du mal à Olivier Dalloglio, qui lui n'a pas trop coaché. Voilà les réactions sur le forum et sur le chat.
Merci Verivel et merci à tous ceux qui participent et qui nous aident à faire vivre l'émission. C'est très agréable d'avoir vos opinions sur les problématiques qu'on aborde. Le poste de latéral gauche, par hasard, je viens vers toi parce que le poste de latéral gauche, a priori, Pierre Cornu, titulaire, on peut le penser, Léo Petro en remplaçant. Alors, deux choses. Déjà, Pierre Cornu, une recrue de 27 ans avec un parcours un peu particulier, mais avec de l'expérience. Donc là, ça ressemble au profil qu'on aime bien quand on monte. Et puis, Léo Petro, que le club était prêt à laisser partir. Alors que derrière Pierre Cornu, à part un jeune sans expérience, il n'y a personne. Donc j'étais un peu étonné. Je suppose que tu as été ravi que Léo Petro préfère rester.
Oui, j'ai été ravi. Je n'ai pas forcément compris le fin mot de l'histoire parce qu'on n'a pas eu d'explication. Donc est-ce que c'est lui, comme ce que certains ont dit, notamment le journaliste belge, qui est le journaliste, il doit être assez fiable parce que c'est celui qui, le premier, avait évoqué l'avenue de Stassin, donc ce même journaliste belge, c'est lui qui a dit à un moment donné que Petro était d'accord avec je ne sais même plus quel club d'ailleurs, je ne sais plus où il veut aller. Saint-Tron, voilà, bravo. C'est lui, donc c'est ce journaliste qui a dit que Petro était d'accord. Ensuite, il semblerait que ce même journaliste ait dit que qu'il y avait un désaccord au sein du club entre Perrin, qui voulait garder Petro, et les dirigeants qui voulaient le lâcher. Et puis j'ai lu aussi que c'est Petro qui finalement s'était ravisé et voulait jouer sa chance à fond en Ligue 1 à Saint-Étienne. Donc bref, on n'a pas le fin mot de l'histoire. C'est sûr que je suis satisfait à double titre. Je suis satisfait parce que je suis très attaché à ce joueur de par son parcours qui est assez exemplaire, de par sa saison de l'an dernier qui était une très bonne saison. Hein. C'est avec Appia le latéral qui a été le plus utilisé sur la saison. Et je pense que un peu comme Appia à droite, c'est un mec fiable au sens où on sait ce qu'il vaut. On sait qu'il aura une certaine régularité, qu'il ne descend pas en dessous d'un certain niveau. On connaît ses limites, mais au moins comme remplaçant, et je pense sur certains matchs, il va être titu, et ben comme remplaçant, il a clairement le niveau. On sait qu'il ne foutra pas la merde, qu'il sera toujours dans l'esprit, et que quand il rentrera comme titu, ben je ne serai pas inquiet. Il y a des joueurs, quand ils rentrent comme Aiki, je me dis, bon, ok, mais je... j'ai bien peur que ce soit, ça fasse un four. Avec Petro, j'aurais pas trop cette inquiétude. Donc, je suis ravi de cette décision finale. Tu l'as bien deviné. Quant à Cornu, je suis assez, effectivement, satisfait. Enfin, j'ai des impressions plutôt positives. Ça reste des impressions, mais liées à l'expérience qu'il a et à tous les commentaires qu'on a pu lire sur le niveau qu'il avait en Israël, à Haïfa. Donc, je suis assez optimiste, sans avoir beaucoup plus d'éléments, parce que je l'ai vu finalement jouer que 90 minutes dans un match où ça n'a pas été le plus mauvais, loin de là, mais dans un match où il n'était pas évident, avec un maillot vert, de se mettre, d'ailleurs il était blanc, je crois, le maillot, de se mettre en valeur.
Ouais, mais, et puis il a fini par faire une bêtise, alors qu'effectivement, ouais. Il ne faisait pas un mauvais match par rapport aux autres. La bêtise, pour ceux qui n'ont pas vu le match, hein, c'est il a concédé un pénalty. Moi, j'ai une petite réserve sur Léo Petro. Alors, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, sauf la petite réserve. Est-ce que vraiment il est capable, imaginons une blessure de cornu, de tenir un poste en Ligue 1? Je dis pas non, mais je dis je suis pas convaincu. J'ai pas la certitude que ces limites dont tu as parlé lui permettent de pouvoir faire face aux exigences de la Ligue. Bon, ça sera à voir. L'avenir nous le dira, peut-être. On va passer aux défenseurs centraux. Alors, Pat, je viens vers toi. A priori, pour l'instant, une charnière centrale titulaire, Abdelhamid Batoubine Sika. Alors, tu vas nous dire un petit peu ce que tu en penses, ce que tu en pensais et ce que tu en penses maintenant. Est-ce qu'ils ont des performances à la hauteur de ce que tu attendais ? Abdelhamid, hein, qui arrive là encore, et après on aura terminé avec ces profils qu'on aurait aimé voir peut-être en nombre, c'est-à-dire de vieux briscards, qui était le taulier de la défense à Reims et qui était indiscutable à Reims. Tu vas nous dire ce que tu penses de son début de saison. Et puis donc, a priori, des remplaçants pour l'instant, est-ce que ça va changer peut-être, Michael Nadé et Anthony Briançon. On t'écoute pour les défenseurs centraux, Pat.
Oui, a priori, sur le secteur défensif, ce n'était pas celui qui devait nous donner des inquiétudes. Quand on regardait la défense, effectivement, on parlait des latéraux, on disait qu'on avait toujours pas vraiment fait le point pour se remettre à niveau sur les côtés, mais ça faisait des années qu'on en parle. Mais pour la défense centrale, on pouvait surfer sur la bonne dynamique de la saison dernière, puisqu'on avait quand même une défense centrale qui était très solide et qui marchait très bien, qui avait en plus été du coup renforcée avec l'arrivée d'Abdelhamid, joueur d'expérience, qui en plus arrivait avec une très bonne réputation. De défenseurs solides qui pouvaient aussi stabiliser l'équipe, apporter son expérience et rassurer aussi tout ce groupe. Bon, malheureusement, moi j'avoue être un peu déçu des performances d'Abdelhamid qui, pour le coup, moi je le trouve pour l'instant souvent pris à défaut. À Monaco, il était souvent pris à défaut par les attaques directes de Monaco. Et ensuite, sur le match notamment à Brest et pour le match également qu'on a vu sur au Havre, notamment le but sur le corner, moi j'ai trouvé que ouais, bah, je le trouve encore assez lent, pas vraiment prêt et il manque un peu d'à propos dans les interventions. Je le trouve pas assez leader justement pour l'instant. Alors peut-être il est sûrement peut-être dans les discours auprès de ses coéquipiers, mais en tout cas sur les axes, sur le terrain, pour l'instant je suis assez déçu et j'en attends plus. Alors bien sûr, c'est un joueur qui a 36 ans, je crois, donc ça commence peut-être à tirer un peu dans les jambes, mais bon, c'est justement dans ces moments-là qu'on doit voir sa science du placement et tout son rôle de communicant auprès de ses coéquipiers pour stabiliser tout ça. Et j'ai l'impression pour l'instant qu'il n'y est pas et que ça a un peu déteint également sur Batoubine Sika, que je trouve très discret sur ce début de saison. Pareil, je l'attendais beaucoup plus dans sa lignée de la saison dernière où il était vraiment le taulier de la défense. Et donc j'avoue que je suis un peu déçu pour l'instant. Maintenant, on verra sur les prochains matchs si ça va mieux. En tout cas, voilà, c'était pas le sujet d'inquiétude, cette défense centrale. Et malheureusement, ça allait un petit peu quand même après ces trois premiers matchs.
Ouais, c'est ça, ça le devient et c'est décevant. Moi, j'étais assez content de la venue d'Abdelhamid, qui est, comme je l'ai dit, qui était le taulier à Reims, vraiment. Hein. Et c'est pareil, unanimement apprécié de ses partenaires. Et pour l'instant, ce n'est pas du tout aussi solide que ce qu'on pouvait espérer. Alors derrière, il y a Nadé Briançon. On connaît leurs qualités, leurs défauts. J'ai quelques doutes sur la capacité à Briançon. La capacité de Briançon à faire face à la Ligue 1, un peu comme Petro. Et puis Michael Nadé, pour moi, c'est une grande inconnue parce qu'il nous a tellement étonnés dans la deuxième partie de saison, la saison dernière, qu'on se dit peut-être qu'au bout du compte, il est capable de passer un nouveau cap et de devenir un défenseur de niveau Ligue 1, incontestablement de niveau Ligue 1, on va dire, parce qu'il a déjà une petite expérience en Ligue 1. Mais sans avoir vraiment totalement convaincu. Donc, on verra. Alors, il y a plein de monde qui veut parler, là. On va commencer avec par hasard sur le forum.
Ouais, je reviens un petit peu en arrière, mais ça me paraissait intéressant parce que la remarque de Toulousain, c'est répondait à une question que je posais concernant Petro et les raisons en fait du revirement. Il dit hein, une chose qui est effectivement sans doute juste, à laquelle je n'avais pas pensé, c'est que si la blessure de Masson a eu lieu à Brest, il est possible que les dirigeants aient finalement décidé de fermer la porte à Petro en se disant qu'il n'était pas tellement le moment de se déshabiller sur les côtés avec donc la blessure et l'absence de Masson pour 2 mois. Donc c'est peut-être ça l'élément qui a pu être décisif dans le fait que Petro reste.
Oui, c'est possible. Ouais, même si, ouais, c'est possible. Même si a priori il est derrière Cornu, mais c'est tout à fait possible. Pat, tu voulais ajouter quelque chose sur les défenseurs centraux peut-être?
C'est ça, tout à fait. C'était aussi un peu pour relativiser mon propos que je trouve peut-être un peu sévère. Il faut bien avouer quand même que nos deux centraux ne sont pas vraiment aidés par les joueurs qui les entourent sur ces 3 premiers matchs. Que ce soit les latéraux, on en a déjà parlé, mais on en parlera après, surtout les milieux de terrain. Je pense notamment à nos deux 6 qui ont pu débuter, que ce soit Tardieu ou Fomba. Je trouve que le milieu était vraiment très très poreux et n'a pas dû aider également nos centraux à faire des bonnes performances. Voilà, donc pour relativiser mon propos.
Oui, très bonne intervention, puisque ça fait la liaison avec le poste suivant. On va parler des 6, comme tu as dit, hein, les milieux de terrain devant la défense, soit tout seul, soit à deux. Alors, qui peut-on ranger dans cette catégorie? C'est la première question. Eh bien, il y en a deux qu'on connaît, c'est Fomba et Tardieu, même si Fomba est un peu plus relayeur que Tardieu, mais... Et puis, surtout, il y a celui qu'on va peut-être découvrir dans 2 jours, c'est Pierre Ekwa, donc, qui a un profil ultra connu dans le foot français, hein, de grand gaillard athlétique, qui vient de la deuxième division anglaise, le Championship, qui est un championnat de haut niveau quand même. Qui a joué beaucoup de matchs l'année dernière, qui était quasiment tout le temps titulaire. Et on va voir ce que ça donne. Alors, dissident, à ce poste, Pierre Ekwa, tu peux peut-être nous dire ce que tu penses de son profil déjà. Est-ce que tu penses que c'est une bonne recrue? Et ensuite, parler de Tardieu et de Fomba qui, devant la défense... N'ont peut-être pas facilité la tâche de la charnière centrale, comme le disait Pat il y a quelques minutes.
Oui, exactement. Et moi, pour le coup, je suis vraiment plein de compassion pour notre charnière centrale, parce que je trouve qu'elle n'a pas démérité en fait, depuis le début de la saison. Elle a été très critiquée, mais finalement... quand on regarde les buts qu'on a pris, et ça a été souligné par Sessoji sur le forum, Verivel l'a dit tout à l'heure, l'essentiel des buts qu'on a pris, voire même l'intégralité des buts qu'on a pris, c'était sur coup de pied arrêté. Dans le jeu, notre charnière, elle a plus ou moins tenu le choc, en fait. Et c'est là où, effectivement, je trouve que les buts sur coup de pied arrêté, c'est du manque de cohésion. On en a parlé un petit peu au début, on a vraiment l'impression que notre équipe elle manque de cohésion, mais c'est aussi un peu de manque de physique, quoi, de types qui vont bouger dans la surface, qui vont prendre les ballons, vous gêner l'adversaire. Et sur ce rôle-là, très clairement, Fonba et Tardieu n'ont pas été étincelants. Donc, ouais, je pense qu'avoir pris un profil comme ça de joueur qui va un grand gaillard comme tu le décris, bah, j'espère. J'espère que ça. Je suis plein d'espoir ce soir encore, visiblement. J'espère qu'en tout cas que ça va nous aider. Moi, il y a un joueur que. Bah, qu'on ne verra pas parce qu'il est blessé de longue date, il va se faire opérer. C'est Thomas Monconduit quand même, on peut en parler. C'est toujours un peu bizarre ce joueur, sa trajectoire à Saint-Étienne, soit à la cave, soit tout d'un coup titulaire. J'aurais bien aimé le voir en Ligue 1, voir un peu ce qu'il donnait. Bon, bah, pour l'instant, on n'en aura pas l'occasion, hélas. Donc, il va falloir faire avec. Avec Ekwa, parce que je pense que lui, par contre, il arrive dans un fauteuil pour être titulaire. Par rapport, en tout cas, au manque qu'on a eu depuis le au manque criant qu'on a eu à ce poste depuis le début de saison.
Ouais, moi j'aime bien Thomas Monconduit aussi. Je le place plus, même on l'a déjà vu devant la défense comme ça, mais plus souvent quand même relayeur. Donc je voulais en parler après, mais tu as bien fait d'en parler parce que c'est vrai qu'il avait sa place aussi dans ce rôle-là. Tu as rappelé malheureusement qu'il est blessé. A priori, on annonce du 4 mois. Donc si ça, tout se passe comme d'habitude, la saison est terminée. Alors par hasard, nous contredire, c'est une passion, souhaite revenir sur le profil d'Ekwa, il n'est pas tout à fait d'accord avec la description qu'on en a faite.
Alors, à la fois, c'est ce qu'en ont dit certains supporters de Sunderland, et puis c'est aussi ce que j'ai vu sur les vidéos, enfin, qu'il faut toujours prendre avec des pincettes, mais bon, c'est quand même le joueur qu'on voit sur des actions qui peuvent durer 20-30 secondes. Les deux choses que j'ai constatées, c'est que techniquement, il n'était vraiment pas embêté avec le ballon et qu'il faisait un peu des percées à la bouchoirie avec un peu plus d'efficacité au bout de ses percées. Mais il a beau être assez grand, je ne suis pas sûr que ce soit le Golgoth que vous imaginez. Et je ne suis pas sûr que ce soit un 6 dans l'âme. On l'a peut-être pris pour faire ça, mais les supporters de Sunderland ont dit en gros, techniquement, il n'y aura vraiment pas de mauvaise surprise, il est très bien, mais physiquement, il a du mal. J'espère, voilà, enfin, pour dire que je suis pas convaincu qu'il remplisse parfaitement ce rôle tel que vous l'imaginez. Mais bon, j'espère me tromper.
Alors, j'ai vu aussi que les supporters de Sunderland indiquaient que techniquement, il était à l'aise. Par contre, au pressing, il ne le trouvait pas très adapté à une équipe qui presse beaucoup. Après, sur le plan des capacités athlétiques, c'est vrai que le championship, il y a tellement d'engagement, c'est tellement plus engagé. Comme championnat, comme culture, que ce qu'on peut voir en Ligue 1, avec un arbitrage qui est très différent aussi, que c'est pas pour ça qu'il sera léger pour la Ligue 1, à mon avis. Hein, mais bon, on verra. Verivel, tu voulais intervenir.
Bah oui, pour relayer en fait ce qui se passe sur le chat. Alors il y a une espèce de consensus hein, autour du manque d'expérience de notre effectif, hein, avec notamment au milieu Denis qui nous dit qu'au milieu il aurait voulu quand même des bons joueurs d'expérience qui auraient pu tenir un petit peu plus leur rôle. Et Stéphane aussi, hein, qui intervient, qui nous dit qu'on a une équipe plus faible que celle qui a joué les barrages contre Metz. C'est son opinion. Et que nos recrues ne sont pas forcément mauvaises, mais que ce sont des jeunes joueurs sans expérience et qu'on ne peut pas trop leur demander de tenir la baraque en Ligue 1. Il y a Denis là, qui réagit aussi au propos de par hasard sur Bouchoirie, il nous demande si les percées à la Bouchoirie, il va les faire dans le bon sens, quoi. Il demande dans quel sens il va les faire, ces percées à la Bouchoirie. Je pense que c'est un petit peu ironique. De la part de Denis, voilà, sur le chat.
Oui, Bouchouari, c'est un garçon qui a ses supporters et puis d'autres qui ont du mal avec. Moi, je n'ai pas été convaincu par ses prestations. Il a été excellentissime contre Bastia il y a deux saisons. Quand on gagne, je crois que c'est 5-0 qu'on gagne. Mais ouais. En dehors de ça,
Je trouve qu'on oublie un peu vite. C'est les deux premiers mois ou les trois premiers mois de l'année, enfin de la saison dernière. Pour moi, c'était le meilleur joueur de synthé entre août et septembre. Au moins entre août et septembre et peut-être un peu début octobre. Mais je vous trouve sévère. Alors ensuite, il n'a pas confirmé, c'est clair. Je pense que Dalloglio l'a bien enterré aussi en le faisant jouer à un drôle de poste. Mais
il a été systématiquement mauvais quand il est rentré. Avec peut-être qu'il ne rentrait pas au poste qu'il préfère, mais avec, à mon avis, une envie très modérée de gagner sa place. Non, je n'ai pas été convaincu, hein, pas du tout. Mais voilà, qu'il me fasse mentir, je ne demande pas mieux. Hein. Alors, de toute façon, on va en parler de Bouchouari. On arrive au milieu relayeur, là. Par hasard, c'est toi qui vas t'exprimer sur la question. Alors, on a vu qui dans ces milieux donc Thomas Moncondu, on a déjà parlé, blessé. On a Louis Mouton, un garçon formé au club. On a Bouchouari dans ce rôle-là aussi. On a évidemment Ayman Mouefek. Et puis, on a un autre qui a joué dans ce rôle-là, c'est Ben Hold. Alors, ça fait beaucoup de monde, ça fait beaucoup de nouveautés.
Et Amougou, tu le mets où?
Ah oui, Amougou, évidemment. Comment je peux oublier Mathis Amougou, qui pour moi est quasiment l'unique bonne nouvelle de ce début de saison. Je me suis fait avoir, je voulais en parler absolument et dire tout le bien que j'en pensais et à quel point ce garçon m'a étonné dans sa capacité à continuer à jouer comme il jouerait en U19 ou en N3, mais à le faire en Ligue 1. J'ai trouvé ça formidable. Par hasard, les autres pourront s'exprimer sur la question. Je rappelle au passage que ceux qui n'ont rien à dire peuvent baisser la main et que si on lève la main, c'est qu'on a quelque chose à dire. Donc, tu vas nous dire ce que tu en penses de Mathis Amougou et du reste. Et les autres pourront s'exprimer parce que là, il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Je répète, on voudrait un avis sur Bouchouari, tu en as déjà un petit peu parlé, sur Louis Mouton, sur Ayman Mouefek, sur Ben Hold et sur Mathis Amougou. Donc, ça fait beaucoup.
Ouais, moi, alors je ne parlerai pas de Ben Hold parce que même si on l'a utilisé dans l'axe, moi j'ai compris que c'était plutôt un joueur de côté. Et puis, c'est trop tôt pour avoir un avis sur lui. Amougou, je te rejoins évidemment, c'est sans surprise, notamment son match à Monaco. Et je te rejoins sur la perception d'OVNI un peu, c'est-à-dire le joueur qui arrive pour la première fois titulaire dans cette équipe. Non pas en Ligue 2 l'an dernier, mais en Ligue 1 cette année à Monaco. Et il ne s'est pas du tout caché. Il n'a pas du tout paru timoré. On voyait quand même un peu que lui au milieu de terrain, côté stéphanois, avec vraiment une belle activité et puis une lucidité dans la passe, une rapidité et une lucidité dans la passe quand le ballon était récupéré. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment... Je me suis dit, même si ce n'est pas le même poste, ça me rappelle les premières de Fofana ou de Saliba en vert. C'est-à-dire qu'immédiatement, on se dit, ça c'est un futur grand. Il n'y a pas débat. Ce n'est pas le joueur qu'on voit arriver progressivement. Même des Guidavogui, sur leurs premières apparitions, étaient moins convaincants. Et il faisait pas tâche, Guidavogui, mais on s'est pas dit tout de suite, waouh, il a quelque chose, quoi. Et je trouve qu'avec Amougou, on se dit ça. Donc il y a Amougou, évidemment, qui va être précieux. La question, quand même, que je me pose, et c'est poser la question, c'est y répondre. Hein. Moi, ma réponse, elle est claire, en tout cas, mon opinion est claire. C'est que je trouve que son arrivée dans l'équipe est assez surprenante, enfin, dans l'équipe, dans le 11. S'agissant d'un joueur qui n'était pas pris en compte par Dalloglio, en tout cas pas concerné dans le groupe l'an dernier, je me demande à quel point l'influence des dirigeants joue dans le fait que Amougou se retrouve si vite titulaire, même si de fait on ne peut que considérer qu'il a pour l'instant le niveau pour être dans la rotation à minima. Mais voilà, je suis un peu surpris. Bon, je referme la parenthèse. À ce poste, bon, évidemment, il y a Mouefek qui part avec une avance sur les autres.
Avance justifiée, on peut le dire.
Ouais, bah justifié. Moi, j'apporte. Enfin, déjà, il a quand même connu la Ligue 1. Il fait partie de ces joueurs qui ont démarré en Ligue 1 même avant l'année de la descente, même s'il a très peu joué. Mais à chaque fois qu'il a joué, on s'est dit tiens, il a quelque chose. Je me souviens de son match à Marseille où il était latéral, si je ne dis pas de bêtises, ou alors je confonds avec Camara. J'ai un doute tout d'un coup. Mais il me semble que c'était lui qui a joué latéral à Marseille, le match qu'on gagne 2-0. Il a montré des choses donc il y a 3-4 ans déjà, enfin 3 ans en Ligue 1. L'an dernier, il a été vraiment un des piliers de l'équipe. Et on voit ce qu'il peut apporter quand il est en forme. Donc, il a un peu cette avance-là sur les autres, finalement. Parce que mon conduit, je pense que c'est un joueur qu'on aurait espéré voir partir. Ce qui ne me paraît pas déconnant, parce qu'à la fois, il a montré des choses intéressantes, mais on sait qu'en Ligue 1, il a affiché certaines limites.
Par hasard, excuse-moi, je t'interromps pour qu'on aille, parce que l'heure avance, et pour qu'on aille tout de suite sur les choses, à mon avis, les plus importantes. Non pas que le reste ne soit pas intéressant, hein, mais parmi les joueurs, il y en a un que j'ai oublié, c'est Miladinovic. Là. Il y a Ben Hold et Miladinovic. Tu dis, je ne vais pas parler de Ben Hold parce que tu ne le vois pas forcément comme un milieu relayeur. Bon, il a quand même joué dans le milieu à 3. Sur le côté, certes, mais quand tu joues dans un milieu à 3, sur le côté, c'est que tu es relayeur. Mais pas devant, j'ai été étonné par ça. C'est pour ça que je l'ai mis dans les milieux de terrain. Et donc, moi, ce que je voudrais savoir, au-delà du niveau, c'est un peu trop tôt pour dire. Je voudrais que tu nous dises ce que tu penses et les autres vont s'exprimer dessus parce que c'est quand même une question essentielle dans l'analyse qu'on peut avoir de la saison à venir, c'est des profils comme Ben Hold, Igor Miladinovic, de jeunes joueurs à potentiel, soi-disant. Pourquoi soi-disant? Parce que c'est la data, comme ils disent, qui dit ça. Hein, la data qui est devenue le scout de la S Saint-Etienne. Hein, on l'a dit, j'en ai parlé un petit peu avant l'émission quand on a échangé ensemble, c'est-à-dire que c'est vraiment très nord-américain comme manière de percevoir les choses, les stats. Comment tu perçois ce type de joueur? Est-ce que tu penses effectivement qu'il faut s'appuyer sur cette technologie-là? Est-ce que c'est l'avenir? Est-ce que ça te remplit d'espoir pour l'évolution future des garçons en question et de notre club, voilà. Quel est ton sentiment là-dessus? Puis après, chacun pourra s'exprimer.
Pour essayer de faire court, non, je pense pas que. Enfin, moi, je suis un peu sceptique. Je trouve que le tout data n'a aucun sens, et je trouve que c'est un peu trop. On a versé un peu trop là-dedans, avec un risque immédiat qu'on est avéré. Qui est qu'on a finalement à ce poste de relayeur, on a l'impression d'avoir 6 joueurs. On n'est pas très sûr d'ailleurs parce qu'on ne les connaît pas, mais on a l'impression d'avoir 6 joueurs. Il y a zéro hiérarchie entre ces 6 joueurs-là. Donc, il va y avoir des perdants, peut-être d'ailleurs des joueurs qu'on aura recrutés par la data parce que tout le monde ne pourra pas jouer, donc tout le monde ne pourra pas montrer ses qualités. Or, s'agissant de joueurs qui ont entre 21 et 22 ans, les qualités, on ne les connaît pas. Et venant de l'étranger, les qualités, on ne les démontre pas, sauf si c'est des génies du foot. Mais ils ne vont pas les démontrer, les qualités, en 3 matchs. Donc, il va y avoir un problème, d'une part, pour établir une hiérarchie et une équipe type, en ayant recruté autant de monde et en ayant recruté des joueurs qui, a priori, sur le papier, ont à peu près le même niveau. Et ça va laisser des joueurs sur le carreau, avec le risque aussi qu'il y a sur l'ambiance au sein de l'équipe. Et le risque avéré et déjà constaté, c'est qu'on a brisé un peu l'harmonie de l'an dernier avec cette stratégie. Parce que même certains bons joueurs de l'an dernier, certains cadres de l'an dernier, se sont retrouvés, ont vu leur statut un peu vaciller. Je pense à Nadé, par exemple. Quoi. Même si, en l'occurrence, ce n'est pas un joueur d'attaque qui l'a remplacé. Donc, moi, je suis pas. Enfin, je me suis beaucoup exprimé sur le sujet depuis quelques semaines. Je ne suis pas convaincu par cette stratégie du tout. Je pense que ça peut avoir de l'intérêt d'aller effectivement dénicher des joueurs pas chers et qui ont des qualités par ce biais-là. Peut-être que Hold va s'avérer être un bon joueur, mais le faire autant que ça, je pense que c'est très casse-gueule. Surtout si par ailleurs on n'a pas recruté les 2-3 joueurs qui immédiatement tirent l'équipe vers le haut, et c'est malheureusement ce qu'on constate. On n'a pas su recruter ces 2-3 joueurs-là. Donc j'adhère pas à cette stratégie.
On dit que pour s'installer en Ligue 1, il faut des joueurs avec l'expérience, qui connaissent le championnat, des vieux briscards, c'était l'expression consacrée à l'époque, dissidents. Des joueurs d'expérience, on a Brice Maubleu, doublure au poste de gardien de but, on a Abdelhamid, ah oui, lui c'est un vieux briscard, mais pour l'instant il est décevant, à un degré moindre, Pierre Cornu, parce que je me souviens plus, je crois qu'il a jamais joué en Ligue 1, même s'il a pas mal bourlingué, et si c'est peut-être un bon, voire très bon joueur. Comment tu vis ce choix, cette stratégie de la nouvelle direction de miser sur des jeunes à potentiel, étant entendu qu'on a l'impression, vu de l'extérieur, que le potentiel en question, c'est la data qu'il trouve, ce potentiel, mais qu'on se demande s'ils ont été supervisés et combien de fois. Et, enfin, est-ce que tu as ce même sentiment étrange que moi?
Oui, j'ai des doutes, bien sûr. Surtout que le mercato avait commencé avec des nouvelles plutôt rassurantes, parce qu'on avait les premières recrues qu'on a fait, et qu'on a fait très rapidement, c'était de prendre des jeunes, des profils jeunes de la data, mais on avait aussi recruté Abdelhamid en gars d'expérience. Et sur le recrutement de juin-juillet, moi j'étais très satisfait, parce que je me disais que c'était une bonne stratégie, une bonne politique comme ça d'associer les deux. Et en fait, on a vu que finalement, plus le temps, plus le mercato a passé, et plus on s'est orienté sur la piste quasiment exclusive de la data. Et aujourd'hui, ben, comme vous l'avez dit, on voit y a un manque de cohésion globale. On le voit dans l'équipe, on le voit même entre nous, parce que du coup, on parle de joueurs dont on sait même pas exactement, qu'on ne connaît pas en fait, qu'on ne sait pas exactement même quel poste ils peuvent avoir. On se pose beaucoup de questions. Et puis surtout, il y a aussi une autre question qu'il faudra peut-être évoquer, c'est notre coach Dall'Oglio. Là-dedans, comment est-ce que lui, il perçoit les choses, comment est-ce qu'il sent les choses, et est-ce qu'il est vraiment en phase avec cette politique? J'en suis vraiment pas sûr, j'ai beaucoup de doutes à ce sujet.
Bah, il a un petit peu répondu dans la conférence de presse après le match de Brest. Hein. On a le sentiment qu'il a à peine caché les petits tacles à la politique de recrutement.
Ouais, moi, tu vois, il y a un truc qui m'a beaucoup choqué, c'est que Dall'Oglio, c'est quelqu'un qui communique très bien et qui est très fin dans ce qu'il dit. Et à la fin du match de Brest, quand il parle de Stassin, ou qui dit que il y a un Belge qui vient d'arriver et qui leur donc il sait pas. Je trouve que c'était
un Belge de 19 ans.
Ouais, je trouve que c'était vraiment très, enfin, volontairement maladroit. Et moi, ça m'a un peu glacé le sang, en fait, parce que je me suis dit que là, il montrait vraiment qu'il n'était pas du tout dans le projet et dans cette politique-là. Donc, ça me fait un petit peu peur. Parce que si on veut aller dans cette direction, il faut que tout le club pousse dans le même sens. Et j'ai déjà l'impression qu'il n'y a pas cette cohésion. Après, si je peux rajouter une dernière chose, si je veux être tout à fait honnête, quand on regarde l'équipe qui est montée, c'est très différent des dernières fois où on est monté. Les dernières fois où on est monté, on était champion de Ligue 2 à chaque fois, de deuxième division. On avait une équipe qui avait dominé son championnat, qui avait des certitudes. Et c'était beaucoup plus simple d'aller rajouter des joueurs d'expérience à des postes clés ou des petits manques qui avaient, parce que l'équipe était déjà prête, entre guillemets. Et là, l'année dernière, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'analyse. On a terminé troisième du championnat avec, en faisant une dernière ligne droite assez folle. On a été emmené dans une sorte de spirale un peu étonnante au printemps avec Cardona, etc. Mais no notre équipe.
Ouais, et ce garçon qui marchait sur l'eau, là, il n'est plus là. Ça aussi, c'est
C'est
une
ça?
grande différence. Et
C'est ça?
je vais même ajouter un truc, c'est que moi, j'ai jamais été persuadé que Cardona nous aurait suffi en Ligue 1, enfin qu'il aurait été un pilier de l'équipe en Ligue 1. Je ne suis pas encore persuadé qu'il ait ce niveau-là.
C'est ça.
Il a marché sur l'eau, tant mieux, mais même avec Cardona, je partais, moi, avec beaucoup d'incertitudes.
C'est ça, exactement. Je pense qu'on est tous, enfin, on le ressent un peu comme ça, c'est-à-dire que notre équipe qui nous a donné tant de plaisir l'année dernière, on savait très bien que dès la fin du match de Metz, il allait falloir tourner la page, parce que cette équipe-là, elle aurait du mal à batailler en Ligue 1. Donc, c'est le foot, c'est comme ça. Il faut tourner la page. J'ai l'impression qu'on ne l'a pas tout à fait. On n'a pas réussi à se débarrasser vraiment de joueurs dont on ne voulait plus. Il y en a qui ont eu des prolongations automatiques de leur contrat, ce qui n'était pas une très bonne idée. Et aujourd'hui, on se retrouve voilà, dans un club qui manque un petit peu de cohérence parce qu'il y a des joueurs qui font plus vraiment partie du projet mais qui sont encore là. Il y a des joueurs qui arrivent mais qui sont peut-être coachés par quelqu'un qui n'y croit pas trop. Et je pense ça va être vraiment l'urgence de ces prochaines semaines, c'est de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça.
Oui, c'est vrai que c'est un chantier énorme. Alors, on va parler rapidement ensuite des joueurs de couloir, des joueurs offensifs de couloir et puis des attaquants. Bon, ça dépend des systèmes, c'est difficile de faire des catégories, mais on sait bien que Cafaro est moins axial que Sissoko, ça c'est évident. Donc, mais avant ça, Verivel, tu vas nous faire un petit point certainement sur certaines réactions. Et puis, je voudrais également l'avis, après l'intervention de Verivel, de Pat, sur cette stratégie de chercher du jeune à potentiel, ce qui peut évidemment rapporter des sous. Mais est-ce que c'est suffisant comme politique quand on veut, dans un premier temps, consolider sa place en Ligue 1? Verivel, pour commencer.
Oui, ben, c'est les mêmes interrogations hein, sur le chat là sur YouTube, en fait, sur les mêmes inquiétudes sur la stratégie en fait de nos dirigeants et également sur l'implication d'Olivier Dall'Oglio dans cette stratégie. Enfin, comment il s'intègre là-dedans. Et on n'est pas très optimiste avec Stéphane et Denis qui pensent qu'il va certainement pas finir l'année. Alors ça, on verra. Il y a aussi une interrogation là de Matisse qui demande par rapport au staff médical notamment parce qu'on voit toutes ces blessures, ça date pas d'hier. Il dit que ça date pas d'hier et que ça devient vraiment un facteur pénalisant, mais c'était aussi sur les années précédentes avec beaucoup de blessures notamment en début de saison avec des
Ça
blessures
fait
longues, on le voit.
très longtemps que le staff médical, bon,
C'est
il y a
ça.
une partie du staff médical qui est en place depuis très longtemps, et ça fait très longtemps qu'ils sont critiqués par une partie des supporters. Je ne me sens pas compétent pour juger, je constate juste qu'il me semble qu'on a beaucoup de blessures et qu'il me semble que les blessures des joueurs mettent du temps, plus de temps que ce qui est prévu à guérir. C'est tout ce qu'on peut dire, mais est-ce que c'est une vision qui est déformée par le fait que ça concerne notre club ou est-ce que c'est une réalité? Bon, je ne suis pas allé voir les stats, mais c'est vrai que tout cela est pas hyper convaincant sur le plan médical au club. Oui, Verivel.
Oui, on voit aussi que, en fait, avec le changement là de direction, il y a quand même il y a quand même finalement peu de choses qui ont changé dans le staff, hein, que ce soit à la direction, puisque en fait, finalement, on a toujours la même direction, et également dans une partie du staff qui n'a absolument pas bougé. C'est quand même assez surprenant qu'une reprise comme ça par des nouveaux investisseurs n'entraîne si peu de mouvements, alors que bon, bah, il y avait certainement des choses à changer aussi à ce niveau-là. Enfin, ça, c'est mon analyse personnelle. Je trouve quand même assez bizarre que finalement, qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière? On s'est débarrassé des deux présidents, mais en fait, après, derrière, il y a quasiment zéro changement.
Moi, je pense que les nouveaux repreneurs ont voulu attendre de bien connaître les rouages et le fonctionnement précis du club avant de prendre des décisions de ce type. Honnêtement, sur le coup, je leur donne raison. Je pense que ça aurait été compliqué une année de monter, de tout révolutionner avec la connaissance, avec une connaissance superficielle du fonctionnement du club. Pat, on revient vers toi avec donc cette stratégie de prendre, non pas exclusivement, mais de prendre essentiellement des jeunes à potentiel, on peut redonner leur nom, c'est-à-dire des jeunes qui pour moi, enfin jamais on ne serait allé les superviser s'il n'y avait pas eu cette histoire de data, donc Igor Miladinovic, Ben Hod, Augustine Boyakier, et puis Lucas Stassin. Moi, je suis super content qu'il y ait un Belge qui est signé au club, mais c'est un garçon de 19 ans seulement. On va en parler plus précisément quand on parlera des attaquants. Sur la stratégie générale, Pat, on aimerait avoir ton sentiment. Est-ce que pour toi, le risque est trop grand ou est-ce que tu penses qu'on peut quand même se maintenir en Ligue 1 avec un recrutement de ce type?
C'est vraiment une question délicate. Personnellement, quand j'ai entendu les premières déclarations des dirigeants, qui affirmaient notamment qu'ils souhaitaient pérenniser le club en Ligue 1, qui avaient quand même pris conscience aussi qu'ils avaient bénéficié d'un an d'avance, puisque la montée n'était pas vraiment prévue au départ, et que c'est un peu la cerise sur le gâteau d'une bonne saison la saison dernière d'être monté, et pour eux c'était vraiment tout bénef. Néanmoins, j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas anticipé ça. Bon, en tout cas, c'est l'impression qu'ils donnent, parce que clairement, quand on monte de Ligue 2 en Ligue 1, surtout avec un effectif ric-rac déjà qui a eu du mal à s'imposer en Ligue 2, tu te dis bon, il faut quand même le renforcer, et on le renforce avec des joueurs, pour moi, avec des joueurs qui ont l'expérience de la Ligue 1, ou des tauliers, des gens certes sur qui tu sais que tu vas pas gagner d'argent dans le futur, puisque c'est des joueurs aguerris et qui de toute façon sont plutôt sur leur deuxième partie de carrière que sur la première. Mais au moins, tu sais qu'avec ces joueurs-là, tu vas pérenniser le club en Ligue 1, tu auras des bases solides sur lesquelles t'appuyer. Et pour le coup, moi j'aurais apprécié d'avoir cette ossature-là, au moins un joueur de ce type titulaire indiscutable sur chaque ligne, avec derrière les fameux jeunes de type data à former, qui pourraient évoluer dans des conditions beaucoup moins pesantes que celles qui vont être pour les jeunes qui sont arrivés. Et pour moi, là, clairement, il y a une erreur stratégique. Alors après, je ne suis pas dirigeant, je n'ai pas cette compétence-là, et je ne suis pas dans la tête d'Ivan Gazidis et de ses collègues. Néanmoins, j'ai comme l'impression qu'ils se disent au fond d'eux, finalement, que cette année bonus, entre guillemets, où on évolue en Ligue 1, c'est comme si pour eux, on évoluait encore en Ligue 2, et qu'au final, même si on se maintenait pas, ce serait pas grave. J'ai l'impression que de la manière dont ça se passe et surtout du manque derrière d'éclaircissement de leur part depuis le début de saison, j'ai l'impression, et je me trompe certainement, j'espère en tout cas, que voilà, on part sur une saison entre guillemets blanche, le but étant de former ces joueurs-là et qu'ils évoluent en Ligue 1, qu'ils progressent, qu'ils se montrent, qu'éventuellement ils deviennent bons, hein, on peut l'espérer. Hein. Il faut espérer que visiblement les personnes qui sont derrière cette data sont quand même apparemment des personnes très renommées dans le milieu, donc on peut espérer qu'ils ne se soient pas trompés. Néanmoins, c'est comme si on faisait pour moi une croix sur le sportif cette saison. S'il y a maintien, ben, tant mieux, mais j'ai presque l'impression que s'il y a descente, comme moi personnellement je commence à le craindre, et ben, ce ne sera pas grave. C'est vraiment moi l'impression que ça me donne.
Pat, je me suis posé la question exactement dans les mêmes termes. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une stratégie à je ne sais pas, à 5, 6, 7 ans, 7, 8 ans peut-être même, et que les deux années qui viennent, ce n'est pas très grave. que les ambitions, c'est plutôt à un horizon de 5-6 ans. C'est-à-dire, si tu descends et que tu remontes, tu as eu le temps de consolider le club, améliorer le fonctionnement, des joueurs se sont développés, etc. J'ai un peu le même sentiment. Alors, c'est vrai que tout ça, ça repose sur rien de concret, mais j'ai le même sentiment que toi, pour ne pas dire la même crainte, parce que il est bien évident qu'il vaut mieux avoir un projet solide sur le moyen terme que sur le court terme, mais on aimerait bien arrêter de morfler, quoi. C'est ça, quoi, aussi, parce
C'est ça.
on a suffisamment mangé les dernières saisons, quoi.
Et surtout, moi, ce qui m'interpelle par rapport à ça et qui m'inquiète, c'est que l'absence de, en fait, de communication, on va dire, des dirigeants aux supporters. On va dire, ce qui quand même, les supporters ne seront pas dans cet objectif-là du tout. Ils vont s'attendre à ce que le club lutte pour sa survie en Ligue 1, mais se maintiennent, fassent ce qu'il faut pour, et pas qu'au final on le traverse comme un fantôme. Donc c'est pour ça que je pense que je me trompe, je l'espère vraiment. Mais si jamais tel ne devait pas être le cas, il faudrait que nos dirigeants s'expriment très vite pour expliquer la stratégie. On aura, je pense, une idée jusqu'à l'hiver, hein. Je pense qu'au mercato d'hiver, on verra très vite si c'est ça ou si effectivement le maintien en Ligue 1 devient une priorité. Il y aura certainement des recrutements différents qui seront faits. Maintenant, j'espère que néanmoins, ça se passera bien jusque-là. Et sinon, je rejoins également les craintes sur l'adéquation de notre coach avec le projet. J'ai comme l'impression que il est toujours présent auprès de nous parce que son contrat a été prolongé, parce qu'il avait une année en option, mais j'ai pas l'impression que les dirigeants comptent beaucoup sur lui, puisqu'effectivement, ils ne lui fournissent pas les joueurs qu'il demande. Il semble agacé par ce projet. En tout cas, la conférence de presse à Brest le laissait vraiment transparaître, et moi aussi, je m'inquiète beaucoup sur son avenir chez nous, bien que je l'apprécie énormément. J'ai l'impression qu'il y a une trop grande disproportion entre son point de vue et celui des dirigeants sur l'avenir du club.
C'est possible. Et puis moi, j'ai un peu peur qu'ils perdent le fil aussi, parce que quand on se sent pas bien, qu'on se sent incompris, je pense que les choix deviennent plus difficiles, les choses sont moins fluides. Et l'exemple que j'ai en tête, c'est la titularisation de Lamine Fomba à Brest. Alors moi, j'ai pas vu le match de N3 concerné, mais j'ai quand même beaucoup lu qu'il avait été complètement à côté de ses pompes en N3 la semaine d'avant. Et Daloglio en fait un titulaire en disant que il semble très en forme à l'entraînement. Alors derrière, il est nul, quoi. Enfin, faut pas s'acharner sur un joueur, mais enfin, ça va être difficile de dire que de trouver un autre adjectif. Si on peut dire, il n'a pas été très bon, voilà. Bon, c'est voilà, j'ai peur que Daloglio perde le fil. Alors. On a déjà dépassé on essaye de faire 1 heure, hein, mais c'est vrai que là, pour une émission de reprise, c'est compliqué. Donc, on va essayer de faire vite quand même sur les derniers postes, parce que on est rentré dans le détail de ce qui faisait la substance la plus intéressante, à mon avis, la problématique la plus intéressante de cette reprise de saison. On va rapidement parler des attaquants. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, dissident, je reviens vers toi, c'est que on marque pas, on n'a aucun tir cadré. Aucun but, voilà. Enfin, aucun tir cadré, pas sur l'ensemble du début de saison. Mais je serais curieux de savoir combien on en a eu des tirs cadrés. Hein. À mon avis, vraiment pas beaucoup. Hein. On en a zéro à Brest. Sissoko est quasiment le seul attaquant, puisque Wadji est encore blessé. Hein. Pour ceux qui l'ignoreraient, ça fait partie des 4 blessés qu'on a eu pendant la trêve internationale. C'est quand même magnifique. Pour renforcer le secteur offensif, on nous sort le dernier jour du mercato, Lucas Tassin, donc joueur à potentiel manifestement, hein, venant du championnat belge, attaquant de 19 ans. Voilà. Alors maintenant, dissident, je voudrais ton avis sur ce poste d'attaquant axial. Est-ce que tu penses que nous sommes armés pour la Ligue 1, étant entendu que j'ai presque répondu à la question déjà?
Oui, on sent la réponse dans ta question. Mais en fait, ce qui me fait rigoler, entre guillemets, sur ce poste d'avant-centre, c'est que pour moi, c'est exactement la caricature de tout le reste de la structure de notre équipe. C'est-à-dire qu'en fait, notre poste d'avant-centre, on a un joueur qu'on connaît et dont on sait qu'il est limite pour la Ligue 1, vraiment limite. Et on a un joueur jeune et inconnu dont on ne sait absolument pas s'il va pouvoir s'adapter à ce championnat. Et en fait, voilà, c'est la caricature même de l'effectif comme je le vois un peu construit aujourd'hui, c'est-à-dire un empilement de joueurs, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais de joueurs dont on sait, ils sont allés au bout d'eux-mêmes pour nous faire monter de Ligue 2 en Ligue 1, dont on sait qu'ils sont limites pour la Ligue 1, et à côté de ça, ben des joueurs qui débarquent, qu'on ne connaît absolument pas, et dont on a du mal à évaluer le niveau et la capacité à s'adapter à la Ligue 1, qui est quand même un championnat plutôt costaud. Donc voilà. Donc pour répondre à ta question, ben je suis pas sûr qu'on soit très armé à ce poste-là. Et la seule chose qu'on peut espérer, c'est que Sissoko progresse. Il n'avait pas été si mauvais que ça à Monaco. J'ai trouvé qu'il avait plutôt été intéressant. Et puis on peut aussi espérer que Stassin, ce soit une très bonne surprise. Mais en tout cas, on n'a aucune certitude parce qu'on n'a pas recruté un joueur connu et reconnu à ce poste, comme on avait pris par exemple Piquion en 2004 quand on était remonté. J'ai beaucoup fait aujourd'hui, je me suis penché un peu dans mes dossiers pour faire la comparaison 2004-2024, mais voilà, en tout cas en 2004 on avait pris quelqu'un, c'était pas la superstar, mais c'était un joueur qui avait de l'expérience en Ligue 1 et dont on pouvait compter sur lui, quoi.
Mais alors, dissident, on avait pris Ilan en même temps ? On avait pris les deux ?
Non, quand on est remonté, on avait pris Ilan, je crois. Ouais.
Piquion en fait, est arrivé une année avant Ilan ?
L'année où.
Ouais, on... Faïdouno et Piquion qui arrivent la première année.
En fait, ah oui, Faïdouno, je me souvenais, mais Piquion, je ne me souvenais pas.
En fait, en 2004, on fait un recrutement hyper scolaire, c'est-à-dire qu'on prend un joueur d'expérience par ligne, on prend Zoumana Camara derrière. Zokora milieu défensif, Feinduno milieu offensif et Piquion devant, qui pour compléter l'équipe qui avait quand même remporté le champion des
ça
deux.
Ça fait là. Mal. Hein.
Ouais, c'est ça.
Ah Zoum, Zokora qui était un super joueur quoi. Enfin, je veux dire. Feinduno, j'en parle pas, lui c'est un génie. Par contre, je me souvenais pas du tout de Piquion parce que cette année-là, on perd 3-2 à domicile contre. Alors, j'essaye toujours de trouver un terme contre qui vous savez, voilà. Et je me souviens du but d'Erita Ilunga.
Non, je pense que tu confonds avec 99 quand tu as remonté.
Voilà, c'est ça, c'est 99.
Ouais, j'allais le dire, effectivement.
Parce que il y a Erita Ilunga qui marque. Non, mais alors, on fait 2-2 alors. Il y a un but de Feinduno de la tête, là.
Non, mais c'est Marin et Feinduno, je crois, qui marquent dans ce derby.
Donc, c'est 2004. Et Marin, il prolonge 2004. La frappe d'Erita Ilunga. Bon, va falloir qu'on révise, hein, parce que là, il y a un truc que je ne comprends pas.
Ouais, mais et en même temps, dissident, tu aurais pu faire le même parallèle avec 99, hein, parce que c'était pareil.
Parce que Feinduno, c'est 99, alors, c'est pas 2004.
Non, Feinduno, c'est 2004 aussi, mais en 99, on avait Compan avant-centre. On avait Subia avant-centre, pardon, en D2, et on recrute Aloiso. Et en 2004, on avait Compan avant-centre, et on recrute Piquion. Donc, d'accord. Dans les deux cas. On avait un bon avant-centre en de Ligue 2 qui avait fait une belle saison.
Mais Piquion, il ne le joue pas, le derby ? Piquion, il ne le joue pas, le derby ?
Bah, j'en sais rien, mais...
C'est ça que... Mais non, il ne le joue pas, le derby.
T'as plus honte, parce que... Ou alors que t'as consulté les archives.
Ouais, mais ouais. Bon, bref. Mais c'est vrai que ça fait mal, ce retour. C'est super intéressant, ce que tu as fait, dissident, d'aller voir ça. C'est tellement différent de ce qu'on vit cette saison. Oh, ouh là là. Et puis en plus, tout ça, c'est la colonne vertébrale en plus. Zoumana Camara, Didier Zokora. Parce que lui, Zokora, tu ne te poses pas la question de savoir s'il avait le niveau Ligue 1. Il était vraiment au-dessus. Hein. Bon, ok. Alors, la question, elle est vite répondue pour ce qui est des attaquants, même si moi, j'enterre pas, je suis comme toi, hein, attention, je n'enterre pas Ibrahim Sissoko, hein, j'attends qu'une chose, c'est qu'il prouve qu'il peut être, un point d'appui pour toute l'attaque au niveau Ligue 1. Et puis sur les côtés, bon, on va peut-être faire un peu plus vite parce que l'heure avance, hein, je l'ai dit, Mathieu Cafaro, Zuriko Davitashvili, Boyakier qui est blessé, Benold qui peut jouer soit au milieu, soit sur le côté, et puis derrière quelques jeunes comme Aiki, par hasard on a parlé. On est encore dans cette situation, je trouve que Dissident a parfaitement résumé, avec des joueurs qui nous ont fait monter, mais qu'on sent juste pour la Ligue 1, type Mathieu Cafaro, qui me donne tort, hein, et qui prouve qu'il a largement le niveau. Moi, je ne demande pas mieux. Pour l'instant, pour moi, il ne l'a pas prouvé encore. Et puis, derrière, on recrute Augustine Boyakier. Qu'est-ce qu'on peut en penser ? Bah, rien, on ne sait rien, on ne le connaît pas, on ne sait pas ce que ça va donner. Davitashvili, on connaît un peu plus, mais il a joué à Bordeaux sans être étincelant à Bordeaux. Il est plutôt remplaçant en équipe de Géorgie, voilà ce qu'on peut dire. Il a fait une préparation pas mauvaise, mais entre faire une préparation pas mauvaise et puis s'imposer en Ligue 1, il y a un monde. Voilà, donc on est dans une situation quasiment à tous les postes où on a un joueur dont on n'est pas sûr qu'il a le niveau Ligue 1 et un autre, en gros, qui est un peu une inconnue, quoi. Voilà, on peut reprendre latéral gauche, hein, Pierre Cornu, Léo Petro, bah, c'est encore exactement la même situation. Donc, tout cela est plein d'incertitudes. Et si on ne restait pas sur trois défaites, je dirais ah bah, y a un côté excitant de découvrir au bout du compte quel est notre vrai niveau. Mais là, on a quand même un petit peu envie que les joueurs répondent rapidement qu'on ne va pas vivre une année totalement galère. Alors, on avait prévu de parler du match de Lille, de la réception de Lille. On peut le faire très vite éventuellement, et surtout parce qu'il y a beaucoup d'absents. Alors, quelle équipe pour jouer contre Lille on peut faire un travail collectif là-dessus. Donc, dans les buts, on a Larsonneur, pas de suspense. À droite, pas de suspense non plus, puisque Masson est blessé, ça risque d'être Denis Appia. Par hasard, je viens vers toi pour latéral gauche. Tu milites pour Pierre Cornu ou pour Léo Petro ?
Bah, pour Cornu, parce qu'on vient de le recruter, a priori pour être titu, et puis Petro revient de blessure, donc Cornu, oui.
D'accord, Cornu. Pat, je reviens vers toi pour la charnière centrale. Tu as dit un petit peu ce que tu pensais de la charnière centrale jusqu'à maintenant. Est-ce que tu serais, par exemple, prêt à redonner sa chance à Michael Nadé, sachant qu'Abdelhamid est capitaine ? Donc, c'est peut-être un peu délicat de l'écarter dès maintenant. Il y a éventuellement le retour de Briançon, puisque Batoubin Sika n'a pas été transcendant. Comment tu vois les choses ? Quel choix tu ferais ?
C'est une question difficile. Parce qu'effectivement, le fait d'avoir mis le brassard
à Abdelhamid... Je te donne les clés de l'équipe, Pat. Tu vas pas te plaindre,
c'est
quand
ça.
Même.
Non, je vais pas me plaindre. C'est sûr. Surtout qu'a priori, je ne sais plus où j'ai lu ça, mais il semblerait qu'Abdelhamid, comme il a joué quelques matchs pendant la trêve, il serait peut-être pas, il démarrait peut-être pas vendredi. Donc, si c'est tel était le cas, moi je verrais bien le retour de Briançon, ce qui fera bien un vice-capitaine, et avec Dylan Batoubitsika évidemment, mais plutôt parce que je vois pas sinon qui mettre à la place d'Abdelhamid si
Michael Nadé,
ça pourrait être Nadé, oui, mais dans ce cas-là, quid du capitaine.
Pour info, Briançon, on ne le voit pas sur les photos d'entraînement depuis au moins une semaine. Donc, je pense que tu peux oublier.
Ouais, donc, dans ce cas-là, moi, je partirais sur un Batou Nadé, parce que je pense qu'Abdelhamid ne sera pas apte à démarrer. Mais après, je peux me tromper. On verra ce que dira Odo demain.
Ok. Dissident, maintenant, au milieu de terrain, alors je sais pas, il y a les possibilités du 4-4-2, du 4-3-3. Tiens, tu vas nous dire ce que tu en penses tout de suite. Tu as envie de jouer en 4-3-3 ou en 4-4-2 demain, sachant que devant, c'est un peu l'edge. Il faudrait faire du Sissoko Stassin. Je pense qu'on n'aurait pas d'autre choix si on jouait en 4-4-2.
Ouais, moi, je reste dans le 4-3-3 et au milieu de terrain, je mets Ekwa, Amougou et Mouefek.
Bon, là, ça me plaît parce que Ekwa, on a envie de le voir à l'œuvre. Parce que Ayman, je pense qu'il peut vraiment apporter quelque chose. Je suis content qu'il ait prolongé. Je pense qu'on est tous pareils. Enfin, revoir les photos, la petite vidéo du club, elle était bien. Revoir les photos d'Ayman à 8 ans, déjà à l'école de foot de la SS, enfin, c'est fabuleux, quoi. C'est vraiment. Enfin, quelque chose qui, moi, en tous les cas, me touche et me fait plaisir. Et puis, Matisse Amougou, voilà, lui aussi, issu du centre de formation et que j'ai trouvé vraiment très convaincant. On en a parlé. On ne va pas le redire. Moi, je valide dans tous les cas. Et puis, pour les trois de devant, Verivel, est-ce que tu as envie de sortir de ta torpeur et de nous dire quel trio tu mettrais devant? Un de chaque côté, un dans l'axe.
D'abord, je ne suis pas du tout dans la torpeur. C'est-à-dire que je suis carrément aux aguets de ce qui se passe sur les réseaux.
Je sais
les
bien,
réseaux,
Donc, je te charrie, cher ami, et comme je l'ai dit, c'est super important qu'il y ait quelqu'un qui puisse comme ça regarder au fur et à mesure, puisque on est très demandeur des réactions sur le forum et sur YouTube en particulier. Et en plus, ce sont souvent quand même des réactions qui apportent au débat, des réactions de qualité, donc ça fait plaisir. Encore merci à vous. Verivel, du coup, pour les trois de devant.
Alors, pour les trois de devant, j'aime bien voir jouer les recrues. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, ça m'a fait la réflexion quand j'ai vu contre Le Havre, Ben Hold, il m'a vraiment fait penser à Ricky Van Wolfswinkel. Est-ce que vous avez eu la même impression que moi? Je ne sais pas, dans ses déplacements, son attitude, etc.
Par hasard, toi qui étais au stade.
Je croyais revoir Ricky.
Je trouve moins léger que Ricky, puis j'espère qu'il sera moins léger que Ricky.
Ouais. Respect à Ricky qui marque pendant les derbies, mon gars. Hein.
Ouais, une fois, ouais.
Ça, c'est vrai.
Ouais, ouais, mais c'était une bonne fois. Hein.
C'est pas le but le plus dur qu'il a eu à mettre, hein, d'ailleurs.
Non, mais ce soir-là, on s'est régalé quand même.
Ouais. Ouais. Je remercie plus Max Gradel et Bayal Sal ce soir-là, mais c'est vrai.
Mousse sur le premier but, c'est extraordinaire, surtout sa réaction. Il y a des photos qui sont parmi les plus belles photos de l'histoire du club à ce moment.
Ouais. Bon, ils n'ont pas le même poste non plus, donc je ne souscris pas au rapprochement Hold Van Wolfswinkel.
Ok, donc en tous les cas, tu voudrais voir Ben Hold sur un côté, c'est ça que tu disais,
Ouais, tout
Mary
à fait. Ouais, ouais, Ben Hold sur un côté, et puis Stassin devant, bah, j'imagine qu'il va jouer. Alors après, il a joué, hein, je crois, pendant la trêve internationale. Non, il n'a pas joué du tout.
Il devait jouer, finalement, il est resté au club.
Il y a pour réviser vos dossiers, là, un peu avant l'émission.
Ah bah ouais, là, carrément, là, je suis carrément à la ramasse là, sur ce dossier-là.
On l'a retenu par les bras, par je ne sais pas quoi, mais finalement, il a refusé la sélection Espoir Belge.
Par contre, Ben Hold, qui était blessé à Brest, a joué deux fois avec la Nouvelle-Zélande à l'autre bout du monde, au Mexique et puis aux États-Unis. Et moi, j'ai un doute sur le fait qu'il soit titulaire. Mais bon, admettons, Ben Hold, toi, tu verrais Stassin à la place de Sissoko, donc, Verivel.
Ouais, Stassin, ouais. Ouais, moi je mets Stassin et puis non, je garde Cafaro là à gauche.
Ouais, on n'a pas le choix de toute façon puisque Boaki est blessé, donc c'est un peu compliqué, difficile d'imaginer Aiki ou un truc comme ça. Ouais. Bon, voilà la compo collective proposée par l'équipe pour terminer. Donc, si on reprend Larsonneur, Appia, Cornu, Pat, il nous a dit quoi, Nadé, Batoubine, Sika.
C'est ça.
Dissident nous a dit Ekwa, Ayman et puis Matisse Amougou. Et puis Verivel qui veut apporter beaucoup de sang neuf avec Ben Hold, Lucas Stassin et Mathieu Cafaro, Lucas Stassin. Tiens, j'ai pas révisé non plus, mais par hasard, je suis sûr que tu vas être capable de me le dire. Il y a combien de joueurs belges qu'on jouait en vert?
Moi, j'avais en tête, d'ailleurs, j'ai fait le rapprochement parce qu'il avait à peu près le même âge, je pense, quand il a signé chez nous, mais j'ai pensé à Miralas.
Ouais.
Mais
il était un peu plus vieux, Miralas, mais il était jeune, c'est vrai. Kevin Miralas, ouais.
Et puis, il était passé par Lille avant d'arriver chez nous.
tout à fait.
Combien, c'est quand même une question assez compliquée, mais bon, j'en ai trouvé un.
Non, mais je pensais qu'en fait, que l'info avait tourné, et moi, je ne l'ai pas vu, l'info, et je n'ai pas d'autres Belges en tête que Kevin Miralas. Alors, peut-être qu'il y en a, si José ouais, écoute…
On va faire appel au forum.
Ouais, puis si José écoute, il va avoir la réponse en 3 minutes. Pardon ?
On a eu beaucoup plus de Hollandais que de Belges.
Ouais, alors j'ai l'impression, effectivement.
Wittke.
Wittke, et évidemment Johnny Rep, hein, et puis Kish Rivers.
Donc il y en a eu Van Sinkel aussi, on l'a dit.
Ouais, ça fait 4 ouais. Déjà de mémoire. Et par contre, les Belges, j'en suis qu'à 2 et je suis pas sûr qu'il y en ait. Alors après, c'est dans les années 30, 40, 50, il y a des noms qui peuvent nous échapper, c'est évident. Bon, ben voilà, je crois qu'on arrive au terme de l'émission. On a fait, je l'espère, pour ceux qui nous ont écoutés, un constat assez complet, une analyse assez complète de ce début de saison, de la politique de recrutement. Alors maintenant, on demande à voir, on espère que les choses vont évoluer positivement. On a un match très difficile dans 2 jours. Hein. On n'a pas parlé de l'adversaire, mais je crois que c'est quand même une forte équipe, nettement plus forte que nous sur le papier. Mais en football, rien n'est jamais écrit. Et j'espère que les joueurs sauront se dépasser, c'est-à-dire au contraire de ce qu'ils ont fait à Brest, hein, puisque à Brest, de ce point de vue-là, ils n'ont pas été capables d'aller au-delà du minimum syndical. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à tous de nous avoir écoutés, que ce soit en direct ou en podcast sur YouTube. Merci Par Hasard, merci Verivel, merci Dissident, merci Pat, et allez les Verts.
Allez les Verts. Allez les Verts. Et plus...